Vidocq, Mémoire, chapitre 40, deuxième partie. L'année 1814 fut l'une des plus remarquables de ma vie, principalement sous le rapport des captures importantes que j'opérais coup sur coup. Il y en avait quelques-unes qui donnèrent lieu à des moments assez bizarres. Au surplus, puisque je suis en train de coudre des narrations, les unes aux autres, je vais raconter. Depuis près de 3 ans, un homme d'une stature presque gigantesque était signalé comme l'auteur d'un grand nombre de vols commis dans Paris. Au portrait que tous les plaignants faisaient de cet individu, il était impossible de ne pas reconnaître le nommé Sabin, voleur excessivement adroit et entreprenant, qui, libéré de plusieurs condamnations successives, dont 2 au fer, avait repris l'exercice du métier avec tous les avantages de l'expérience des prisons. Divers mandats furent décernés contre Sablin, et les plus fins limiers de la police furent lancés à ses trousses. On eut beau faire, il se dérobait à toutes les poursuites. Et si l'on était averti qu'il s'était montré quelque part, lorsqu'on y arrivait, il y était déjà plus temps de redécouvrir sa trace. Tout ce qu'il y avait d'inspecteur à la préfecture s'était à la fin lassé de courir après cet individu, cet invisible. Et ce fut à moi que revint la tâche de le chercher, de le saisir, si faire se pouvait. Pendant plus de 15 mois, je négligeais rien pour parvenir à le rencontrer. Mais il ne faisait jamais dans Paris que des apparitions de quelques heures, et sitôt un vol commis, il s'éclipsait sans qu'il fût possible de savoir où il était passé. Sablin n'était en quelque sorte connu que de moi. Aussi, de tous les agents, était-je celui qu'il redoutait le plus. Et comme il voyait de loin, il s'y prenait si bien pour m'éviter qu'il ne me fut pas donné une seule fois d'apercevoir son ombre même. Cependant, comme le manque de persévérance n'est pas mon défaut, je finis par être informé que Sablin venait de fixer sa résidence à Saint-Cloud, où il avait loué un appartement. À cette nouvelle, je partis de Paris, de manière à arriver qu'à la tombée de la nuit. On était alors en novembre, il faisait un temps affreux. Quand j'entrai dans Saint-Cloud, tous mes vêtements étaient trempés. Je ne pris pas même le temps de les faire sécher, et dans l'impatience de vérifier si je ne m'étais pas embarqué sur un faux avis, je pris, au sujet du nouvel habitant, quelques renseignements desquels il résultait qu'une femme dont le mari, marchand forain, avait près de 5 pieds 10 pouces, était récemment emménagée dans la maison de la mairie. Les tailles de 5 pieds 10 pouces ne sont pas communes, même parmi les patagons. Je ne doutais plus que l'on m'eût indiqué le véritable domaine de Sablin. Toutefois, comme il est trop tard pour m'y présenter, je revins ma visite au lendemain. Et pour être bien certain que notre homme ne s'échapperait pas, malgré la pluie, je me décidai à passer la nuit devant sa porte. J'étais en vedette avec un de mes agents, et au point du jour, on ouvre, et je me glisse doucement dans la maison afin d'y passer une reconnaissance. Je veux m'assurer s'il est temps d'agir, mais, près de mettre le pied sur la première marche de l'escalier, je m'arrête, quelqu'un descend. C'est une femme dont les traits altérés et la démarche pénible révèlent un état de souffrance. À mon aspect, elle jette un cri et remonte. Je la suis, et en m'introduisant avec elle dans le logement dont elle avait la clé, je m'entends annoncer par ces mots, procédés avec froid : « Voilà Vidocq !» Le lit est dans la seconde pièce. J'y cours. Un homme est encore couché. Il lève la tête, c'est Sablin. Je me précipite sur lui et avant qu'il ait pu se reconnaître, je lui passe les menottes. Pendant cette opération, madame, tombée sur une chaise, poussait des gémissements. Elle se tordait et paraissait en proie à une douleur horrible. « Mais qu'a donc votre femme ? » dis-je à Sablin. « Mais voyez-vous pas qu'elle est dans les malles ? Toute la nuit, ça lui a mal train. Quand vous l'avez rencontrée, elle sortait pour aller chez madame Tiremonde. » Et en ce moment, les gémissements redoublent. « mon Dieu, je n'en puis plus, je me meurs. Messieurs, ayez pitié de moi, que je souffre donc. Aïe, 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 à mon secours !» Et bientôt, ce ne sont plus que des sons entrecoupés. Pour ne pas être touché d'une telle situation, il aurait fallu avoir un cœur de bronze. Mais que faire ? Il était évident qu'ici une sage-femme serait très nécessaire. Cependant, par qui l'envoyer chercher ? Nous ne sommes pas trop de deux pour garder un gaillard de la force de Sablin. Je ne puis sortir, je ne puis non plus me résoudre à rester laisser mourir une femme. Entre l'humanité et le devoir, je suis réellement l'homme le plus embarrassé du monde. Et tout à coup, un souvenir héroïque et historique, très bien mis en scène par madame de Jarlis, vient m'ouvrir l'esprit. Je me rappelle le grand monarque faisant auprès de la Villière avec l'office d'accoucheur. Et pourquoi, me dis-je, serais-je plus délicat que lui ? Allons, vite, un chirurgien. Eh bien, c'est moi qui le suis. Soudain, je mets habit à bas, en moins de 25 minutes, madame Sablan est délivrée. C'est un fils superbe à qui elle a donné le jour. J'emmaillote le poupon, après avoir fait la toilette de la première entrée ou de la première sortie, car je crois qu'ici les deux expressions sont synonymes. Et bien, la cérémonie est terminée, en contemplant mon ouvrage, j'ai la satisfaction de voir que la mère et l'enfant se portent bien. Maintenant, il s'agit de remplir une formalité, l'inscription du nouveau-né sur les registres de l'état civil. Nous étions tout portés, et je me porte à servir de témoin. Et lorsque j'ai signé, madame Sablin me dit « Ah, monsieur Jules, pendant que vous y êtes, vous devriez bien nous rendre un service. » « Lequel ? » ?»« Mais je n'ose vous le demander. » « M'a parlé, si c'est possible. Nous n'avons pas de parrain. Auriez-vous la bonté de l'être ?» Autant moi qu'un autre. Où est la marraine ? Madame Sablin nous pria d'appeler une de ses voisines. Et dès que celle-ci fut prête, nous allâmes à l'église, accompagnés de Sablin, que j'avais mis dans l'impossibilité de se sauver. Les honneurs de ce parrainage ne me coûtèrent pas moins de 50 francs, et pourtant il n'y avait pas de dragée au baptême. Malgré le chagrin qu'il éprouvait, Sablin était tellement pénétré de mes procédés qu'il ne put s'empêcher de m'en témoigner sa reconnaissance. Après un bon déjeuner que nous fîmes apporter dans la chambre de la couchée, j'emmenai son mari à Paris, où il fut condamné à 5 ans de prison. Devenu garçon de guichet à la force, où il subissait sa peine, Sablin trouva dans cet emploi non seulement le moyen de bien vivre, mais encore celui de ramasser aux dépens des prisonniers et des personnes qui veulent le visiter une petite fortune qu'il se proposait de partager avec son épouse. Mais à l'époque où il fut libéré, ma commère, madame Sablin, qui avait aussi à s'approprier le bruit et bien l'autrui, était en expédition à Piation à Saint-Lazare. Et dans l'isolement où le jetait la détention de sa ménagère, Sablin fit comme tant d'autres. Il tourna à mal, c'est-à-dire qu'ayant un soir pris sur lui le fruit de ses économies, qu'il avait conservées et converties en or, il alla au jeu et perdit tout. 2 jours après, on le trouva pendu dans le bois de Boulogne. Il avait choisi pour s'accrocher un des arbres de l'allée des voleurs. Ce n'était pas, comme on l'a vu, sans m'être donné beaucoup de peine que j'étais parvenu à livrer Sablin aux tribunaux. Certes, si toutes les explorations eussent nécessité autant de pas et de démarches, je n'y aurais pas suffi. Mais presque toujours, le succès se faisait moins attendre, et quelquefois il était si prompt que j'en étais moi-même étonné. Peu de jours après mon aventure de Saint-Cloud, le sieur Sébillotte, marchand de vin, rue de Charenton, numéro 45, hein, se plaignit d'avoir été volé. Suivant sa déclaration, les voleurs, s'étant introduits chez lui à l'aide d'escalade, entre 7 et 8 heures du soir, lui avaient enlevé 12 000 francs, espèces sonnantes, 2 montres d'or et 6 couverts d'argent. Il y avait eu effraction, faite à l'intérieur, aussi bien qu'à l'extérieur. Enfin, toutes les circonstances de ce crime étaient si extraordinaires que l'on conçut sur la véracité de M. Sébillotte des doutes que j'eus la mission d'éclaircir. Un entretien que j'eus avec lui me convainquit du reste que sa plainte ne mentionnait que des faits très réels. M. Sébillotte était propriétaire. Il avait chez lui plus que de l'aisance et il ne devait rien. Par conséquent, je ne voyais pas dans sa situation l'ombre d'un doute ni d'un motif pour que le vol dont il se plaignit fût simulé. Cependant, ce vol était de telle nature que pour le commettre, il avait fallu connaître parfaitement les êtres de la maison. Alors je demandai à M. Sébillotte quelle personne fréquentait le plus habituellement son cabaret. Et quand il m'en eut désigné quelques-unes, il me dit « Bon, c'est à peu près tout, sauf les passants, et puis ces étrangers qui ont guéri ma femme. Ma foi, nous avons été bien heureux de les rencontrer. La pauvre diablesse était souffrante depuis 3 ans. Ils lui ont donné un remède qui lui a fait vraiment beaucoup de bien. Et les voyez-vous souvent, ces étrangers ? Ben, ils venaient ici prendre tout leur repas, puis depuis que ma femme va mieux, on ne les voit que de loin en loin. Savez-vous quels sont ces gens ? Peut-être ont-ils remarqué. Ah, monsieur ! S'écria Madame Sébillotte, qui prenait part à la conversation. N'allez pas les soupçonner, ils sont honnêtes, j'en ai la preuve. Oh oui, reprit le mari, elle en a la preuve. Qu'elle vous conte ça, vous verrez. Raconte donc à monsieur. Alors Madame Sébillotte commença son récit en ces termes. Oui, monsieur, ils sont bien honnêtes. J'en mettrai ma main au feu. Enfin, figurez-vous, il n'y a pas plus de 15 jours, c'était justement la semaine d'après le terme, j'étais occupé à compter l'argent de nos loyers, quand une des femmes qui sont avec eux est venue à entrer. C'est elle qui m'a donné le remède dont j'ai éprouvé un si grand soulagement. Il n'y a pas à dire qu'elle m'ait pris un sou pour ça, bien au contraire. Vous sentez bien que je ne puis pas faire autrement que de la voir avec plaisir. Alors je la fis asseoir à côté de moi, Et cependant que je mettais les pièces par 100 francs, voilà qu'elle en aperçoit une, où il y a ce gros père appuyé sur deux jeunesses, avec une peau sur les épaules en matière de sauvage, qui tient un bâton. Ah, me dit-elle, en avez-vous beaucoup de cette façon-là? Et pourquoi, lui dis-je? Ben, c'est que, voyez-vous, ça vaut 104 sous. Autant vous en aurez surpris, autant mon mari vous en prendra, si vous voulez les mettre à part. Je croyais qu'elle plaisantait, mais le soir, je n'ai jamais été plus surprise que de la voir revenir. Son mari était avec elle. Nous avons vérifié ensemble notre argent, et comme il s'est trouvé parmi 300 pièces de 100 sous de celles qui lui convenaient, je les lui ai cédées, et il m'a compté 60 francs de bénéfice. Ainsi jugé d'après cela, ils se sont donné le genre, puisqu'ils n'avaient tenu qu'à eux de les avoir troc pour troc. À l'œuvre, on connaît l'ouvrier. La dernière phrase de Madame Sandliot me disait assez de quelle espèce d'honnête gens elle faisait l'éloge. Il ne m'en fallut pas davantage pour être certain que le vol qu'on devait rechercher les auteurs avait été commis par des bohémiens. Le fait de l'échange était dans leur manière. Et puis Madame Sébillot, en me les dépeignant, ne fit que me confirmer de plus en plus dans l'opinion que je m'étais formée. Je quittai bien vite les deux époux, et dès ce moment, tous les teints basanés me devinrent suspects. Je cherchais dans ma tête où je pourrais en trouver le prix de cette nuance. Lorsque, passant sur le boulevard du temple, j'aperçois, attablé dans une espèce de cabaret, appelé la maison musique, la maison rustique, deux individus dont le cuivré et l'étrange tournure éveillent dans mon esprit quelques réminiscences de mon séjour à Malines. Alors j'entre, et qui vois-je? Christian, avec un de ses affidés, qui est également de ma connaissance. Je vais droit à eux, et présentant la main à Christian, je le salue du nom de Corouin. Il m'examine un instant, puis mes traits lui reviennent à la mémoire. « Ah ! S'écrie-t-il en me sautant au cou avec transport. « Voilà mon ancien ami !» Il y avait si longtemps que nous nous étions vus que, nécessairement, après les compliments d'usage, nous avions bien des questions à nous adresser mutuellement. Il voulut savoir quelle avait été la cause de mon départ de Malines, lorsque je l'avais quitté sans prévenir. Alors je lui fis un conte qu'il eut l'air de croire. « c'est bien, me dit-il, que cela soit vrai ou non, je m'en leur rapporte. D'ailleurs, je te trouve, c'est le point essentiel. Oh, bah, les autres sont bien contents de te revoir. Ils sont tous à Paris. Caron, Langarin, Raffier, Martin, Six, Mia, Limide, enfin, jusqu'à la mer, l'Arviot, qui est ici avec nous. » Et Berthe, donc, la petite Berthe. Ah oui, ta femme. C'est elle qui aura du plaisir. Oh, si t'es ici à 16h, la réunion serait complète. Nous sommes donné rendez-vous pour aller au spectacle ensemble. Tu seras de la partie, j'espère. D'abord, puisque te voilà, nous ne nous quittons plus. T'as pas d'idée? Non. Ben, ni moi non plus, nous allons rentrer au Capucin. Au Capucin, soit, c'est tout près. Oui, à deux pas, au coin de la rue d'Angoulême. Le marchand de vin traiteur, dont l'établissement porte pour enseigne la grotesque image d'un disciple de saint François, jouissait alors de la faveur de ce public aux yeux duquel la quantité en tout vaut toujours plus de prix que la qualité. Et puis pour ces célébrateurs du dimanche ou du lundi, pour ces bons vivants qui se mettent en riole une seule sur semaine, n'est-il pas bien doux d'avoir un endroit où, sans faire trop mauvaise chère et sans blesser personne, on puisse se présenter dans toutes les tenues possibles, dans toutes les longueurs de barbe, dans toutes les degrés d'ivresse? Tels étaient les avantages que l'on avait aux Capucins, sans compter l'immense tabatière banale, toujours ouverte sur le comptoir du bourgeois, pour l'agrément de quiconque, en passant, souhaitait se régaler d'une petite prise. Il était 4 heures quand nous nous installâmes dans ce lieu de liberté et de jouissance. Jusqu'à 6 heures, l'intervalle était long. J'étais impatient de revenir à la maison rustique où devaient se rassembler les compagnons de Christian. Et après le repas, nous allâmes les rejoindre. Ils étaient au nombre de 6. En les abordant, Christian leur parle dans son langage, et aussitôt on m'entoure, on m'accueille, on m'embrasse, on me fête à l'envie. La satisfaction brille dans tous les regards. « Point de comédie, point de comédie !» s'écrie le nomade d'une voix unanime. « Vous avez raison, dit Christian, point de comédie. Nous irons au spectacle une autre fois. Buvons, mes enfants, buvons !»« Buvons !» répètent les bohémiens. Le vin et le punch coulent à grands flots. Je bois, je ris, je cause et je fais mon métier. J'observe les visiteurs, visages, les tics, les gestes, etc. Rien ne m'échappe. Je récapitule quelques indications qui m'ont été fournies par M. et Mme Sévillotte et l'histoire de pièces de 100 sous qui n'avait été pour moi que le principe d'une conjecture, devient la base d'une conviction entière. Christian, je n'en doute pas, Christian ou ses affidés, sont les auteurs du vol dénoncé à la police. Combien je m'applaudis alors, d'un coup d'œil fortuit, donné si à propos à l'intérieur de la maison rustique. Ce n'est pas tout que d'avoir découvert les coupables. J'attends que les cerveaux soient raisonnablement exaltés pour les sublimations alcooliques, et quand toute la société est dans un état qu'il ne faut qu'une chandelle pour en avoir deux, je sors et cours en toute hâte au théâtre de la Gaîté, où après avoir fait appeler l'officier de paix, de service, je l'avertis que je suis avec des voleurs et de concert avec lui pour que dans une heure ou deux, au plus, il nous fasse tous arrêter, hommes et femmes. L'avis donné, je fus promptement de retour. On ne s'était pas aperçu de mon absence, mais à 10 heures, la maison est cernée. L'officier de police se présente et avec lui un formidable cortège de gendarmes et de mouchards. On attache chacun de nous séparément et l'on nous entraîne au corps de garde. Le commissaire nous y avait précédé. Il ordonne une fouille générale et Christian, qui prétend se nommer Hirsch, s'efforce en vain de dissimuler les 6 couverts d'argent de M. Sébillotte et sa compagne, Mme Villemain, c'est ainsi qu'elle prétend, s'appelait, ne peut dérober à la investigation des plus rigoureuses les 2 montres en or mentionnées dans la plainte. Les autres sont aussi obligés de mettre en évidence de l'argent et des bijoux dont nous les débarrassons. J'étais bien curieux de savoir quelle réflexion cet événement suggérerait à mes anciens camarades. Je croyais lire dans leurs yeux que je ne leur inspirais pas la moindre défiance. Je ne me trompais pas, car à peine fûmes-nous au violon, ils me firent presque des excuses d'avoir été cause involontaire de mon arrestation. Tu ne nous en veux pas, me dit Christian. Mais que diable, aucun ne serait attendu à ce qui vient d'arriver. T'as bien fait de dire que tu ne nous connaissais pas. Alors, sois tranquille, nous nous garderons bien de dire le contraire. Et comme on n'a rien trouvé sur toi qui puisse te compromettre, tu es bien sûr qu'on ne te retiendra pas. Et Christian me recommanda ensuite d'être discret au sujet de son nom véritable et de ceux de ses compagnons. Au reste, ajouta-t-il, la recommandation est superflue, puisque tu n'es pas moins intéressé que nous à garder le silence à cet égard. J'offris aux bohémiens de leur consacrer les premiers moments de ma liberté. Et dans l'espoir que je ne tarderais pas à être élargi, ils m'indiquèrent leur domicile afin qu'à la sortie, je puisse aller prévenir leurs complices. Vers minuit, le commissaire me fit extraire sous le prétexte de m'interroger et nous nous transportâmes aussitôt au marché noir où résidait la fameuse duchesse ainsi que trois autres des affidés de Christian que nous arrêtâmes à la suite d'une perquisition qui mit entre les mains toutes les preuves nécessaires pour les faire déclarer coupables. Cette bande était composée de 12 individus, 6 hommes et 6 femmes. Ils furent tous condamnés, les uns au fer, les autres à la réclusion. Le marchand de vin de la rue de Charenton recouvra ses bijoux, ses couverts et à la plus grande partie de son argent. Madame Sébillotte fut dans la joie. Le spécifique des bohémiens n'avait eu pour effet de rendre sa santé moins chancelante, et la nouvelle de 12 000 francs retrouvés la guérit radicalement. Et sans doute aussi l'expérience qu'elle avait faite ne fut pas perdue pour elle. Elle se sera souvenue qu'une fois dans sa vie, il avait failli lui en cuire d'avoir vendu 104 sous des pièces de 5 francs. Chat échaudé, craint l'eau froide. Cette rencontre des bohémiens est presque miraculeuse. Mais dans le cours des 18 années que j'ai été attaché à la police, il m'est arrivé plus d'une fois d'être fortuitement rapproché de personnes avec lesquelles le hasard m'avait mis en contact durant les agitations de ma jeunesse. À propos d'occurrences de ce genre, je ne puis résister à l'envie de conseiller dans ce chapitre une de ces 1 000 réclamations absurdes qu'il me fallait entendre chaque jour. Mais celle-ci me procura une bien singulière reconnaissance. Un matin, tandis que j'étais occupé à rédiger un rapport, on m'annonce qu'une dame fort bien mise désire me parler. Elle a, me dit-on, à vous entretenir d'une affaire des plus importantes. J'ordonne de la faire entrer. Elle entre. Je vous demande pardon de vous avoir dérangé. Vous êtes bien Monsieur Vidocq. C'est bien à Monsieur Vidocq que j'ai l'honneur de parler. Oui, madame, que puis-je pour votre service? Oh, beaucoup, monsieur. Vous pouvez me rendre l'appétit et le sommeil. Je ne dors plus, je ne mange plus. Qu'on est malheureux d'être sensible. Ah, monsieur, que je plains les personnes qui ont de la sensibilité. Oh, je vous jure, c'est un bien triste présent que le ciel leur a fait là. Il était si intéressant et bien élevé. Oh, si vous l'aviez connu, vous n'auriez pas pu vous empêcher de l'aimer. Pauvre garçon. Mais madame, daignez vous expliquer. Peut-être me faites-vous perdre un temps précieux. Il était ma seule consolation. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Je n'aurai pas la force de vous le dire. Elle fouille dans son sac, d'où elle tire un imprimé qu'elle me remet en détournant la vue. Lisez plutôt. Mais ce sont les petites affiches que vous me donnez là. Sans doute vous vous méprenez. Oh, je le voudrais, monsieur. Oh, je le voudrais. Je vous en supplie, jetez les yeux sur le numéro 32 740. Dans mon affliction, je ne saurais vous en dire davantage. Oh, qu'il est cruel! Et des larmes s'échappent de ses yeux. La parole expire sur ses lèvres. Elle est agitée par des sanglots. Elle paraît éprouver des suffocations. Ah, oh, j'étouffe, j'étouffe. Je sens quelque chose qui me remonte. Je tends un siège à la dame, et tandis qu'elle s'abandonne à la douleur, je tourne deux ou trois feuillets pour arriver au numéro 32 740. C'est sous la rubrique des effets perdus. La page est trempée de larmes. Et je lis: Petite épagneule, longues soies argentées, oreilles tombantes, il est parfaitement coiffé, une marque de fer au-dessus de chaque œil, physionomie excessivement spirituelle, et queue en trompette, formant l'oiseau de paradis. Il est très caressant de son naturel, ne mange que du blanc de volaille, et répond au nom de garçon, prononcé avec douceur. Sa maîtresse est dans la désolation. 50 francs de récompense à qui le ramènera sur le Turenne. Numéro 23. Eh bien, madame, que voulez-vous que je fasse pour garçon? Les chiens ne sont pas de ma compétence. Je veux bien que celui-là ait été fort aimable. Oh oui, monsieur, aimable, c'est le mot, soupira la dame avec un accent qui allait au cœur. Et de l'intelligence, on n'en a pas plus que cela. Oh, il ne me quittait pas, ce cher garçon. Croirez-vous que pendant nos saints exercices de la mission, il avait l'air aussi recueilli que moi? Enfin, on l'admirait, c'était édifiant. Hélas, ce dimanche dernier, nous allions encore ensemble au salut. Je le portais sous mon bras. Vous savez que ces petits êtres ont toujours des besoins. Et au moment d'aller à l'église, je le pose à terre pour qu'il fasse ses nécessités. J'avance quelques pas afin de ne pas le gêner. Et quand je me retourne, plus de garçon. Je l'appelle: garçon, garçon. Il avait disparu. Je manque la bénédiction pour courir après. Et juger de mon malheur, il ne m'a pas été possible de le retrouver. C'est pourquoi je viens aujourd'hui près de vous, afin que vous ayez l'extrême bonté d'envoyer à sa recherche. Je paierai tout ce qu'il faudra, mais surtout qu'on ne me brutalise pas, car je répondrai qu'il n'y a pas de sa faute. Mais ma foi, madame, qu'il y ait de sa faute ou non, cela ne me regarde pas. Votre réclamation n'est pas de la nature de celle qu'il m'est permis d'écouter. S'il fallait ici nous occuper des chiens, des chats et d'oiseaux, nous n'en finirions pas. C'est bien, monsieur. Puisque vous le prenez sur ce ton, je m'adresserai à son Excellence. Si on n'a pas de la complaisance pour les personnes qui pensent bien, Savez-vous que j'appartiens à la congrégation et que vous appartiez au diable, si vous voulez? Je ne puis pas achever. Une difformité que je remarquais tout à coup dans la dévote maîtresse de garçon provoqua de ma part un éclat de rire tel qu'elle en avait tout à fait déconcerté. N'est-ce pas que je suis bien risible, dit-elle. Riez, monsieur, riez. Et au moment où ma subite gaieté s'apaise un peu, pardonnez-moi, madame, à ce mouvement dont je n'ai pas été le maître. J'ignorais d'abord à qui j'avais affaire, maintenant je sais à quoi m'en tenir. Vous déplorez donc bien la perte de garçon. Ah, monsieur, je n'y survivrai pas. Vous n'avez donc jamais éprouvé de perte à laquelle vous ayez été plus sensible? Oh non, monsieur. Cependant, vous eûtes un mari en ce monde, vous eûtes un fils, vous avez eu des amants. Oh non, monsieur, oh, je vous trouve bien osé. Oui, madame Duflot, vous avez eu des amants. Vous en avez eu. Rappelez-vous une certaine nuit de Versailles. À ces mots, elle me considère plus attentivement. Le rouge lui monte au visage. Eugène! S'écrie-t-elle, et elle s'enfuit. Madame Duflot était cette marchande de nouveautés dont j'avais été quelque temps le commis, lorsque, pour me dérober aux recherches de la police d'Arras, j'étais venu me cacher dans Paris. C'est une drôle de femme que Madame Duflot. Elle avait une tête superbe, l'œil hautain, le sourcil en relief, le front majestueux. Sa bouche, relevée par les coins, était plus grande que nature, mais était ornée de 32 dents d'une éclatante blancheur. Des cheveux d'un beau noir et un nez aquilin cheval sur une petite moustache passablement fournie donnait à sa physionomie un air qui eût peut-être été imposant si sa poitrine, placée entre deux bosses, et son cou plongé dans ses doubles épaules, n'eussent fait naître l'idée d'un Polichinelle. Elle avait environ 40 ans quand je la vis pour la première fois. Sa mise était des plus recherchées, et elle visait à se donner un port de reine. Mais du haut de la chaise où elle était perchée, de telle façon que ses genoux s'élevaient de beaucoup au-dessus du comptoir, elle ressemblait moins à une Sémiramis qu'à l'idole grotesque de quelque pagode indienne. En l'apercevant sur cette espèce de trône, j'eus beaucoup de peine à tenir mon sérieux. Cependant, je ne dérogeais point à la gravité de la connaissance, circonstance, et j'eus assez d'inspirer et d'empire sur moi pour convertir en salutations respectueuses ces dispositions d'un tout autre genre. Madame Duflot tira de son sein un gros lorgnon, à l'aide duquel se mit à me regarder, et quand elle m'eut toisé de la tête aux pieds, que souhaite monsieur? Me dit-elle. J'allais répondre, mais un commis qui s'était chargé de la présentation m'ayant dit que j'étais ce jeune homme dont il lui avait parlé. Elle me fixe de nouveau et me demande si je m'entends au commerce. En fait de commerce, j'étais assez novice. Je garde le silence. Elle réitère la question, et comme elle manifeste de l'impatience, je me vois forcé de m'expliquer. Madame, lui dis-je, je ne connais pas le commerce des nouveautés. Mais avec du zèle et de la persévérance, j'espère parvenir à vous satisfaire, surtout si vous avez la bonté de m'aider de vos conseils. Eh bien, vous me faites plaisir. J'aime que l'on soit franc. Je vous accepte. Vous remplacerez Théodore. Dès que nous conviendra, madame, je suis à vos ordres. Eh bien, en ce cas, je vous arrête, et à dater d'aujourd'hui, je vous prends à mon service. Mon installation a lieu sur le champ. En ma qualité de dernier commis, c'était à moi qu'était dévolue la tâche d'approprier le magasin et l'atelier, où une vingtaine de jeunes filles, toutes plus jolies les unes que les autres, étaient occupées à façonner les colifichets destinés à tenter la coquetterie provinciale. Jetée au milieu de cet essaim de beauté, je me crus transporté au sérail, et convoitant tantôt la brune, tantôt la blonde, je me proposais de faire circuler le mouchoir lorsque, dans la matinée du quatrième jour, madame Duflot, qui avait surtout surpris quelques œillades, m'invita à passer dans son cabinet. « Monsieur Eugène, me dit-elle, je suis fort mécontente de vous. Vous n'êtes ici que depuis très peu de temps, et déjà vous vous permettez de former des dessins criminels au sujet des jeunes personnes que j'occupe. Je vous avertis que cela ne se reconviendra pas du tout, si tout, du tout, du tout. » Confondu de ce reproche mérité, et ne pouvant imaginer comment elle avait deviné mes intentions, je lui répondis que par quelques paroles insignifiantes. « Oh, vous seriez bien embarrassé de vous justifier, » reprit-elle. « Je sais bien qu'à votre âge, vous ne pouvez guère vous passer d'avoir une inclination, mais ces demoiselles ne sont en fait votre fait sous aucun rapport. D'abord, elles sont trop jeunes, ensuite, elles sont sans fortune, et un jeune homme, il faut quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins, quelqu'un de raisonnable. » Et pendant cette morale, madame Duflot, nonchalamment étendue sur une chaise longue, roulait les yeux dont les mouvements eussent infailliblement produit un bruyant désopilement de sa part et de ma rate, si sa bonne ne fût venue très propos lui dire qu'on lui demandait au magasin. Ainsi finit cet entretien qui me démontra la nécessité de me tenir désormais sur mes gardes. Sans renoncer à mes prétentions, je ne parus plus voir qu'avec indifférence les ouvrières de ma patronne, et je fus aussitôt assez habile pour me mettre en défaut sa pénétration. Sans cesse, elle veillait sur moi, épiait mes gestes, mes paroles, mes regards, mais elle ne fut frappée que par une seule chose, la rapidité de mes progrès. Je n'avais pas fait un mois d'apprentissage et déjà, je savais vendre un châle, une robe de fantaisie, une guimpe, un bonnet, comme le plus ergoté des commis. Madame était enchantée. Elle eut même la bonté de me dire que si je continuais à me montrer docile à ses leçons, elle ne désespérait pas de faire de moi le coq de sa nouveauté. « Mais surtout, ajouta-t-elle, plus de familiarité avec les poulettes, hein. Vous m'entendez, monsieur Eugène? Vous m'entendez? Et puis j'ai encore une recommandation à vous faire, de ne pas vous négliger sous le rapport de la toilette. C'est si gentil, un homme bien mis. Au surplus, dorénavant, c'est moi qui veux vous habiller, laissez-moi faire. Vous verrez si je ne fais pas de vous un petit amour. » Je remerciais madame Duflot, et comme je craignais qu'avec son goût extravagant, elle ne me transformât en Cupidon, à peu près comme elle s'était transformée en Vénus, je lui dis que je désirais lui épargner le soin d'une métamorphose qui me paraissait impossible, mais que, si elle se bornait aux avis, je les recevrais avec reconnaissance et m'empresserais de les mettre à profit. À quelque temps de là, C'était 4 jours avant la Saint-Louis. Madame Duflot m'annonça que, voulant, suivant son usage, aller à la foire de Versailles avec une partie de marchandises, elle avait jeté les yeux sur moi pour l'accompagner. Nous partîmes le lendemain et, 48 heures après, nous étions établis sur le champ de foire. Un domestique qui nous avait suivis couchait dans la boutique. Quant à moi, je logeais avec madame à l'auberge. Nous avions demandé 2 chambres. Mais, vu l'affluence des étrangers, on ne put nous en donner qu'une. Il fallut se résigner. Le soir, madame se fit apporter un grand paravent dont il se servit pour séparer la pièce en deux, de manière que nous devions être chacun à notre particulier. Avant d'aller nous coucher, elle me sermonna pendant 1 heure. Enfin, nous montons, madame passe chez elle, je lui souhaite le bonsoir, et en 2 minutes je suis au lit. Bientôt, elle laisse échapper quelques soupirs. Oh, c'est sans doute l'état de la fatigue qu'elle a conservé pendant sa journée. Elle soupire encore, mais la chandelle est éteinte, et je m'endors. Et tout à coup, je suis interrompu dans mon premier sommeil. Il me semble que l'on a prononcé mon nom. J'écoute, Eugène. Mais c'est la voix de madame Duflot. Je ne réponds pas. Eugène ! Appelle-t-elle de nouveau. Avez-vous bien fermé la porte ? Oui, madame. Oh, je pense que vous vous trompez. Voyez-y, je vous prie, et surtout assurez-vous si le verrou est bien poussé. On ne saurait prendre de précautions dans les auberges. Je procède à la vérification et je reviens me coucher. Et à peine me suis-je replacé sur le côté gauche que madame commence à se plaindre. Oh, quel mauvais lit! On est rongé des punaises! Impossible de fermer l'œil! Et vous, Eugène, avez-vous de ces insectes insupportables? Je fais la sourde oreille. Elle reprend. Eugène, répondez donc! Avez-vous comme moi des punaises? Parfois, madame n'en est pas encore senti. Oh, vous êtes bien heureux, je vous en fais mon compliment, car moi, elle me dévore. Oh, j'ai les ampoules d'une grosseur. Oh, si cela continue, je passerai une nuit blanche. Je garde le silence, mais force à moi de le rompre lorsque madame Duflot, exaspérée par la souffrance, ne sachant plus entre les picotements et les démangeaisons de quel bois faire flèche, se mit à crier à tue-tête. « Eugène, Eugène, mais levez-vous donc, je vous prie, et faites-moi le plaisir d'aller dire à l'aubergiste qu'il vous donne de la lumière pour faire la chasse à ces maudites bêtes. Dépêchez-vous, mon ami. Oh, je suis dans un enfer. » Je descends et remonte avec une chandelle allumée que je dépose sur le somneau auprès de la couchette de ma bourgeoise. Et comme j'étais ce qu'on appelle en petite tenue de dragon, c'est-à-dire le pantalon volant ou la barrière au vent, je me retirai bien vite, autant pour ménager la pudeur de madame Duflot que pour échapper aux séductions d'un négligé galant dans lequel il me semblait qu'il y avait du dessein. Mais, à peine ai-je fait le tour du paravent, madame Duflot jette un cri. « Ah ! Oh, qu'elle est grosse ! C'est un monstre ! Je n'aurai jamais la force de la tuer ! Oh, comme elle court ! Elle va s'échapper ! Eugène ! Eugène ! Venez ici, je vous en supplie ! » Il n'y avait pas à reculer. Nouveau taisé, je me risque, et m'approchant du lit. Où est-il, dis-je, où est-il le Minotaure, que je l'extermine? Je vous en conjure, monsieur Eugène, ne plaisantez pas comme ça. Là, tenez, tenez, la voilà, qui court. L'apercevez-vous sous l'oreiller? À présent, elle descend. Oh, quelle vitesse! Il semble qu'elle sente ce que vous lui réservez. J'eus beau faire diligence, je ne pus ni atteindre ni voir le dangereux animal. Je cherchais partout où il aurait pu se glisser. Je me donnais tout le mouvement imaginable pour le découvrir. Ce fut peine inutile. Le sommeil nous gagna pendant cet exercice, et à mon réveil, si, par un retour dans le passé, je fus porté à réfléchir que Madame Duflot avait été plus heureuse que l'épouse de Putiphar, j'eus la douleur de penser que je n'avais pas toute la vertu de Joseph. Dès ce moment, j'eus mission de veiller toutes les nuits à ce que madame ne fût plus incommodée par les punaises. Mon service de jour en devint considérablement plus doux. Les égards, les prévenances, les petits présents ne m'étaient pas épargnés. J'étais, ainsi que le conscrit de Charlot, nourri, chaussé, habillé et couché avec le gouvernement aux frais de la princesse. Par malheur, la princesse était quelque peu jalouse, et le gouvernement tant soit peu despotique. Madame Duflot ne demandait pas mieux, sous plus d'un rapport, que je m'amusasse comme un fou bossu. Mais elle entrait dans des fureurs toutes les fois qu'elle me voyait jeter les yeux sur une femme. À la fin, excédé de cette tyrannie, je lui déclarai un soir que j'étais décidé à m'en affranchir. « Ah, vous voulez me quitter ?» me dit-elle. « Nous verrons. » Puis, s'armant d'un couteau, elle s'élance pour m'en percer le cœur. J'arrêtai son bras, et sa rage s'étant apaisée, je m'engageai à rester sous la condition qu'elle ne serait plus raisonnable. Elle promit. Mais dès le lendemain, les rideaux de taffetas vert furent adaptés au grillage du cabinet où j'étais relégué depuis que madame avait jugé à propos de m'employer excessivement et exclusivement à la tenue de ses livres. Cette mesure était d'autant plus vexatoire que désormais il n'y avait plus moyen d'avoir en perspective le personnel du magasin. Madame Duflot était par trop ingénieuse à m'isoler du reste de la terre. Chaque jour, c'était une nouvelle précaution pour m'accabarrer. Enfin, mon esclavage devint si rigoureux que tout le monde s'apercevait de la tendresse dont j'étais l'objet. Les demoiselles de boutique qui étaient bien aises de mettre Martel en tête, la bourgeoise, venaient à chaque instant me parler, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre. Et cette pauvre madame Duflot en était tourmentée. C'était une pitié. À toute heure du jour, il me fallait essuyer les reproches. C'était des scènes à n'en plus finir. Oh, je ne me sentais pas la force de rester plus longtemps soumise à un pareil régime. Afin d'éviter un éclat qui, dans ma position, aurait pu me compromettre, j'étais alors un évadé du bagne. Je fis secrètement retenir ma place à la diligence et je filai. J'étais loin de supposer à cette époque que 20 ans plus tard, je reverrais dans les bureaux de la police la petite bosse de la rue Saint-Martin. C'est le proverbe qu'il a voulu. Deux montagnes ne se rencontrent pas.